ne sais pas là où ça peut mener, mais je vais simplement dire que c'est quelque chose qui est malsain par rapport à la bonne gestion de la chose publique en République centrafricaine.
Réaction de Joseph Bindoumi, le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, dans la partie magazine. Au Soudan, tir de gaz lacrymogène sur des manifestants pour le premier anniversaire du putsch, un mort signalé. Les rebelles tigréens et le gouvernement éthiopien ont commencé des discussions à Pretoria. Le nouveau premier ministre britannique Rishi Sunak averti de décisions difficiles à venir. À suivre dans la Minute Éco, les législateurs ghanéens demandent le renvoi du ministre des Finances en sport. La cinquième journée de la Ligue des champions, c'est ce soir en Europe. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été désigné aujourd'hui facilitateur dans la crise tchadienne par la communauté des États d'Afrique centrale réunie en sommet extraordinaire à Kinshasa, selon le communiqué final de la rencontre. Ce sommet consacré au processus de transition politique au Tchad a été organisé à l'invitation de M. Tshisekedi, président en exercice de la CEA, quelques jours après des manifestations qui ont fait une cinquantaine de morts le 20 octobre au Tchad. Le dirigeant tchadien Mahamat Idriss Déby Itno était lui-même présent à la réunion à laquelle ont participé des chefs d'État et représentants de 11 pays membres de la CEAC. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra ne lâche pas prise dans son bras de fer avec la présidente de la Cour constitutionnelle. Un décret lu à la Radio Nationale ce mardi a mis fin à la fonction de présidente de cette institution qui était occupée par Daniel Darlan, forcé à la retraite il y a 2 semaines. Abdourahmane Dia.
Le document officiel, largement relayé par les médias locaux et sur les réseaux sociaux, cite différentes dispositions constatant l'empêchement définitif de Daniel Darlan, c'est-à-dire sa retraite de la fonction publique, actée il y a 2 semaines par le gouvernement. Cette décision, rejetée par l'intéressé, a suscité une vague de réactions. Certains y voient un lien avec la décision de la Cour d'annuler le mois dernier des décrets créant un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. L'opposition, qui avait saisi la Cour, soupçonne qu'une nouvelle loi fondamentale autorise le chef de l'État à briguer un troisième mandat. Le week-end dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Bangui pour exiger un référendum pour permettre au président Touadéra de briguer un troisième mandat.
Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a indiqué aujourd'hui que le régime de Bamako, dominé par les militaires, posait comme condition à une restauration des relations avec la France le respect de sa souveraineté et de ses choix stratégiques. Le Mali a souhaité que notre souveraineté soit respectée, que nos choix stratégiques et nos choix de partenaires soient respectés et que les intérêts vitaux des Maliens soient pris en compte, a affirmé M. Diop au 8e Forum international de Dakar, conférence sur la sécurité et la paix en Afrique. Au Soudan, un manifestant a été tué ce mardi dans la banlieue de Khartoum, renversé par un véhicule des forces de sécurité à l'issue d'une journée de mobilisation pour marquer le premier anniversaire du putsch au Soudan. Claire Morin-Gibou.
À Khartoum et ses banlieues, le déploiement militaire a été massif. Les militaires à la caserne ont scandé les manifestants qui ont érigé des barricades. Les forces de sécurité ont bloqué ponts et avenues pour empêcher un déferlement des protestataires vers le palais présidentiel où siège le général Abdel Fattah al-Burhan, l'auteur du coup d'État du 25 octobre 2021. C'est aux abords de ce bâtiment que la police a tiré des grenades lacrymogènes pour tenter de disperser la foule. Des milliers de Soudanais hostiles au pouvoir militaire sont également sortis dans toutes les régions du pays. Les défilés se sont poursuivis dans l'après-midi. Le Soudan est toujours plongé dans l'incertitude. Aucun observateur n'imagine possible la tenue des élections promises à l'été 2023. Aucune figure politique ne semble prête à rejoindre le gouvernement civil promis par le général al-Burhan. Et les multiples médiations n'ont jamais réussi à sortir ce pays de la crise.
Les rebelles tigréens et le gouvernement éthiopien ont ouvert à Pretoria, en Afrique du Sud, des pourparlers de paix visant à mettre fin à près de 2 ans de guerre. Les détails avec Nani Talani.
Les pourparlers de paix ont été organisés pour trouver une solution pacifique et durable au conflit dans la région du Tigré, a indiqué Vincent Magwenya, porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Kindeya Gebreyiwot, un porte-parole des forces tigréennes, affirme que ces discussions seront axées sur la cessation immédiate des hostilités, l'accès humanitaire sans entrave et le retrait des forces érythréennes. Pour le gouvernement éthiopien, ces pourparlers sont une opportunité de résoudre pacifiquement le conflit et d'améliorer la situation sur le terrain. Les discussions sont placées sous l'égide de l'Union africaine, dont l'équipe de médiation est composée de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta et l'ancienne vice-présidente sud-africaine Phumzile Mlambo-Ngouka. Pour le moment, rien n'a filtré de ces pourparlers qui se tiennent à huis clos et doivent se terminer le 30 octobre.
L'Union européenne a levé les sanctions qui pesaient au Burundi contre trois personnes, dont le premier ministre Gervais Indira Kobusha, pour leur rôle dans la crise politique de 2015 qui avait fait au moins, vous vous en souvenez, 1200 morts. Les sanctions prises par l'Union européenne le 1er octobre 2015 concernaient des restrictions en matière de déplacement et le gel des fonds.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre britannique Rishi Sunak a été reçu ce mardi par le roi Charles III, qui l'a chargé de former un nouveau gouvernement dans un pays en proie à une instabilité inédite et une profonde crise sociale. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le nouveau premier ministre Rishi Sunak avertit le Royaume-Uni des décisions difficiles qui s'annoncent. Il a toutefois adressé un message d'espoir à un pays plongé dans une grave crise économique et sociale.
I will deliver on its promise.
Je tiendrai sa promesse. Un système de santé plus fort, de meilleures écoles, des rues plus sûres, le contrôle de nos frontières, la protection de notre environnement, le soutien de nos propres forces.
Our environment, supporting our armed forces.
Le nivellement et la construction d'une économie qui saisit les opportunités du Brexit, où les entreprises investissent, innovent et créent des emplois.
Les défis sont énormes. L'inflation dépasse les 10%. Le risque d'une récession plane. Les grèves se multiplient face à la chute du pouvoir d'achat. La Commission européenne appelle Rishi Sunak à respecter les accords sur le Brexit, notamment les dispositions douanières en Irlande du Nord. L'ancien banquier et ancien ministre des Finances devient le troisième premier ministre en 2 mois, 5 jours après la démission de Liz Truss, qui est restée 44 jours à Downing Street.
Et le président américain Joe Biden a félicité aujourd'hui le nouveau premier ministre britannique, Rishi Sunak, disant se réjouir de travailler avec lui, notamment sur le dossier de la guerre en Ukraine. Lundi, Joe Biden avait qualifié de révolutionnaire la désignation de Rishi Sunak, première personne d'origine indienne et de confession hindoue, à devenir premier ministre de la Grande-Bretagne. La première ministre italienne Giorgia Meloni s'est engagée aujourd'hui à bloquer les arrivées de migrants en provenance d'Afrique. La chef du parti Fratelli d'Italia a déclaré que son gouvernement, le plus à droite du pays depuis la Seconde Guerre mondiale, voulait arrêter les départs illégaux et mettre un terme à la traite d'êtres humains. Dans son discours de politique générale ce mardi au Parlement, elle a notamment insisté sur le fait qu'il était temps d'arrêter les trafiquants qui décident qui peut entrer en Italie. Le Kremlin a réitéré aujourd'hui son affirmation selon laquelle l'Ukraine envisage d'utiliser une bombe sale, avertissant l'Occident qu'il était dangereux d'ignorer la position de la Russie. L'Ukraine, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont rejeté les soupçons exprimés depuis dimanche par plusieurs responsables russes selon lesquels l'Ukraine pourrait se préparer à faire exploser une bombe sale, une arme mêlant explosifs conventionnels et matériaux radioactifs dans le cadre du conflit sur son sol. Un tribunal russe a rejeté aujourd'hui un recours en appel déposé par la basketteuse américaine Brittany Griner contre sa condamnation à 9 ans de prison pour possession et trafic de stupéfiants. Les avocats de la sportive demandaient son acquittement ou une réduction de la peine infligée en première instance qu'ils estiment disproportionnée. Et puis, le président américain Joe Biden a reçu aujourd'hui une nouvelle dose de rappel de vaccin anti-Covid, occasion pour lui d'appeler ses compatriotes à suivre son exemple à l'approche de l'hiver. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouamadou Mfa.
Le FMI a annoncé samedi un accord préliminaire avec le Malawi sur un financement d'urgence de 88,3 millions de dollars. Ce financement, qui représente 50% de la quote-part du Malawi au FMI, sera débloqué via le nouveau guichet de choc alimentaire lancé par le fonds pour apporter des aides d'urgence au pays durement touché par la hausse des prix des denrées alimentaires. 80 des 137 législateurs du parti au pouvoir au Ghana ont appelé mardi au limogeage du ministre des Finances, alors que le pays est confronté à une inflation record de 37%. Le ministre Ken Oforiatta vient de rentrer de Washington où il participait à des pourparlers avec le FMI pour obtenir un prêt très controversé au Ghana de 3 milliards de dollars. Pourtant, le président Nana Akufo-Addo avait autrefois promis un Ghana sans aide. Les règles commerciales qui régissent les produits agricoles sont obsolètes et doivent s'adapter aux défis du changement climatique et démographique, souhaite la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala. Selon elle, les distorsions commerciales et les niveaux élevés de protectionnisme sont un grave problème qui est couplé à un sous-investissement chronique dans la recherche et les infrastructures.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Cyclisme pour commencer avec l'annulation du Tour du Faso.
Oui, l'édition 2022 du Tour cycliste international du Burkina, initialement prévue du 11 au 20 novembre, a été annulée. Raison invoquée par les autorités, la situation sécuritaire marquée par des attaques terroristes dans certaines localités du Burkina. C'est ce qui ressort d'un courrier adressé par le secrétaire général du ministère des Sports à la Fédération burkinabé du cyclisme. Pour Bernabé Cabré, journaliste sportif, rédacteur en chef de Radio Omega, cette décision était prévisible.
On l'a tous vu venir, sauf qu'on attendait une confirmation. Le Tour du Faso débutait dans quelques jours. Jusqu'à présent, on n'avait ni le circuit de l'édition 2022, ni les équipes qualifiées et invitées qui ont répondu favorablement. Quand on regarde aussi les circuits habituels du Tour du Faso, il y a des zones en proie au terrorisme. Vous prenez par exemple le circuit Ouaga-Kaya. On sait que Kaya est fréquemment harcelé, même si c'est en allant vers la ville de Dori. Est-ce que les autorités allaient prendre le risque d'amener le peloton dans cette zone? On pense aussi à l'étape à Kokologo, Boromo, Bobo-Dioulasso. On sait tous que la route nationale numéro 1 subit en tout cas des attaques et avec pas seulement des attaques terroristes, il y a aussi le grand banditisme. Est-ce que les organisateurs du Tour du Faso allaient prendre le risque d'envoyer les coureurs nationaux et internationaux sur ce circuit? Il y a aussi l'étape habituelle Bobo-Dioulasso, Dédougou, Koudougou, quand on sait aussi que c'est une zone en proie aux attaques terroristes. Donc tous les sillons étaient tracés pour un report de cette édition.
Bernabé Cabré, journaliste sportif et rédacteur en chef de Radio Omega.
Football, la Tunisie qualifiée pour la CAN de moins de 20 ans.
Les Aigles de Carthage ont arraché leur ticket devant le Maroc lors de la dernière journée des éliminatoires en Égypte. Les Marocains se sont inclinés face à la Libye 0-1 pendant que les Tunisiens faisaient match nul 4 buts partout contre l'Algérie. La Tunisie finit ainsi première du groupe devant la Libye deuxième et le Maroc troisième. L'Algérie est dernière. On connaît donc 8 des 12 pays qualifiés pour cette CAN des moins de 20 ans. Il s'agit de l'Égypte, du Bénin, du Nigeria, du Sénégal, de la Gambie, de la Tunisie, du Mozambique et de la Zambie. Cette CAN des moins de 20 ans est prévue l'année prochaine en Égypte.
La cinquième journée de la Ligue des champions se joue ce soir en Europe.
Manchester City se déplace à Dortmund pour le choc de cette cinquième journée. Déjà qualifié pour la suite de la compétition, City veut s'assurer la tête du groupe G. Autre club assuré de sa qualification, le Real Madrid, champion en titre, se rend sur la pelouse de Leipzig. Son dauphin du groupe F, en mauvaise posture avec 3 défaites en 4 matchs. La Juventus Turin, troisième du groupe H, veut se relancer à Lisbonne. Dans le même groupe, le Paris Saint-Germain validera son ticket pour les huitièmes en 4 victoires face au Maccabi Haïfa. Dans le groupe E, Chelsea cherche à décrocher les 3 points pour assurer sa qualification en huitièmes à Salzbourg. En cas de nul, les Anglais compteront sur une victoire de l'AC Milan qui se déplace à Zagreb.
Page des sports VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a mis fin au mandat de la présidente de la Cour constitutionnelle, Danielle Darlan, et du juge Trinité Bango Sangafio, après leur mise à la retraite. Dans un premier décret, M. Touadéra annule spécifiquement l'élection de Danielle Darlan à la présidence de la Haute Cour. Nani Talani a joint à Bangui Joseph Bendomi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Il y a eu un débat parce qu'à un moment donné, on a mis des membres de la Cour constitutionnelle à la retraite. Certains parce qu'ils étaient professeurs à l'université de Bangui, d'autres parce qu'ils étaient magistrats et atteints par la limite d'âge. Et à l'époque, il y a eu un débat au niveau de la République centrafricaine où certains pensaient que les professeurs d'université, s'ils étaient mis à la retraite de ce côté-là, cette retraite-là jouait sur leur position au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous, des droits de l'homme, nous avons dit qu'il n'y avait aucun lien, que lorsque leurs pères ont fait une assemblée et qu'ils les ont désignés, ils sont nommés membres de la Cour constitutionnelle. Et cette élection est détachable du fonctionnement de la Cour constitutionnelle et on ne peut pas les démettre de la Cour constitutionnelle sous prétexte qu'ils ont été retraités au niveau de l'enseignement supérieur.
Est-ce qu'on peut dire que le président Touadéra a violé la Constitution?
Moi, je ne suis pas juge constitutionnel. Je pense que le décret étant signé là tout à l'heure, ce sont les membres de la Cour constitutionnelle et les personnes ayant un intérêt qui vont certainement réagir par rapport à ce décret. Mais je ne peux pas, sans être juge constitutionnel, dire si ce décret est conforme ou non conforme à la Constitution.
Peut-on dire que cette situation a un lien avec l'invalidation par la Cour des décrets du président créant un comité chargé de rédiger une nouvelle Constitution?
Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Pratiquement l'année 2022, nous avons connu beaucoup de petites difficultés entre la Cour constitutionnelle et l'exécutif. Premièrement, en ce qui concerne la loi sur la crypto-monnaie, dont les dispositions faisaient état de ce que ceux qui s'engageaient dans cette voie étrangers pouvaient avoir la nationalité centrafricaine ou avoir des propriétés en République centrafricaine. La Cour constitutionnelle a donc annulé ces dispositions et puis il y a eu l'opposition qui a saisi la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les décrets qui créaient un comité de rédaction d'une nouvelle constitution. Et nommant les membres, la Cour constitutionnelle a pensé que ce décret-là était contraire à la Constitution. Et puis donc nous sommes partis dans un système de bras de fer et puis il y a eu des textes de mise à la retraite au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la magistrature. Ces textes-là pouvaient avoir un effet sur la position des retraités au niveau de la Cour constitutionnelle.
À quoi peut mener ce nouveau bras de fer entre le pouvoir ou les autorités et la Cour constitutionnelle?
Je ne sais pas là où ça peut mener, mais je vais simplement dire que c'est quelque chose qui est malsain par rapport à la bonne gestion de la chose publique en République centrafricaine. C'est-à-dire que l'harmonie qui existe dans le fonctionnement de l'institution de la République et qui font de notre pays un état de droit ne devrait pas arriver à un certain dysfonctionnement qui fait qu'il y a des décrets qui sont pris et des résistances qui sont opposées. Il y a la Constitution qui est réclamée pendant que d'autres lois réglementaires interviennent dans le même domaine. Donc il y a un problème qui ne va pas quelque part.
C'était Joseph Bendomi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Tchad, le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno s'est adressé à la nation hier suite à la manifestation violemment réprimée à N'Djamena et dans les provinces du Sud qui ont fait plus de 50 morts, la plupart tués par balles réelles. Le chef de l'État a décrété un deuil national d'une semaine et accuse l'opposition d'être seul responsable de ces massacres. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point dans la capitale tchadienne.
Empruntant les mots de son premier ministre, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, confirme que ce ne sont pas des simples manifestations qui ont été maîtrisées, mais une insurrection minutieusement planifiée pour créer le chaos dans le pays. Il apporte tout son soutien aux forces de l'ordre qui ont maîtrisé cette situation. Toutefois, il décrète une semaine de deuil national.
Un deuil de 7 jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national à compter de mardi 25 octobre 2022 en mémoire de nos compatriotes morts au cours de ces événements tragiques et regrettables.
Le général Mahamat Idriss Déby impute la responsabilité de ces massacres aux organisateurs de cette manifestation, notamment au président du parti Les Transformateurs, qui, selon lui, avant, pendant et après le dialogue national, refuse toute proposition mais surgit à la fin pour exiger le partage du pouvoir.
Dans l'esprit d'ouverture préconisé par le dialogue, le Premier ministre et moi-même avons suggéré que les membres du parti Les Transformateurs participent au gouvernement d'union nationale. Là aussi, nous avons enregistré un refus catégorique du président des Transformateurs qui a exigé la primature ou rien. Si j'avais accédé à cette demande, il n'y aurait ni manifestation ni toutes ces violences.
Docteur Succès Masra a répondu au général 5 étoiles en ces termes.
Je me prépare à des responsabilités d'homme d'État. Je ne me permets pas d'aller dans la poubelle de l'histoire.
Pour lui, le général Mahamat Déby n'est pas un homme digne de confiance.
Les Tchadiens savent que mon engagement, c'est un engagement d'abord pour la justice et l'égalité, pas pour des choses qui me concernent moi à titre personnel. Moi, je prends la peine, pour des choses sérieuses qui concernent le pays, je les accouche par écrit. Même les discussions qu'on a eues oralement, je les mets en préambule avant d'asseoir les propositions qui accompagnent cela. Et donc, les documents qui lui ont été mis à disposition, s'ils sont courageux, qu'ils le sortent.
Le président de la transition accuse les organisateurs de la manifestation pacifique du 20 octobre dernier ayant tourné à l'émeute d'être en intelligence avec l'ennemi pour déstabiliser les institutions de la République.
Le groupe politico-militaire non signataire des accords de Doha ont entretenu des relations directes avec les responsables de ces actes violents. Ils leur ont dit d'opposer une résistance de 3 jours, à l'issue de laquelle ils interviendront.
Pour Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, ces allégations renforcent plutôt sa détermination.
Jamais je ne souscrirai à la dynastie, jamais je ne souscrirai à des élections volées d'avance. Et voilà mon plus grand péché. Et donc, qu'on me désigne comme l'ennemi public numéro un, quelle bonne nouvelle qui est annoncée. Alors oui, la rupture, elle est totale et complète. On ne peut s'unir que sur la base de la justice et de l'égalité. C'est terminé le mensonge.
Dans la ville, la situation reste toujours confuse. Les militants du parti Les Transformateurs sont toujours traqués par des hommes en treillis. D'autres sont enlevés dans leur domicile, notamment pour des destinations inconnues. À la tombée de la nuit, les armes crépitent toujours dans les quartiers sud de N'Djamena. André Kordumadjingar, N'Djamena, pour VOA.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Au Nigeria, les autorités ont appelé au calme et à la vigilance après que l'ambassade des États-Unis à Abuja a mis en garde contre un risque élevé d'attaque terroriste dans la capitale. L'ambassade a demandé aux Américains vivant au Nigeria d'éviter les déplacements non essentiels et les foules de rester vigilants. Le reportage de Timothy Obiezu à Abuja, le récit avec Michel Joseph.
L'ambassade des États-Unis a averti dimanche que les édifices publics d'Abuja, les lieux de culte, les écoles, les marchés, les centres commerciaux, les bars et les hôtels pourraient bientôt être attaqués. Elle a exhorté les citoyens américains vivant au Nigeria à éviter les déplacements non essentiels et à garder leur téléphone portable chargé. L'ambassade a également fait savoir qu'elle réduirait ses heures de travail en conséquence, mais n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le sénateur Iro Egbu, expert en sécurité basé à Abuja, estime que cette alerte n'est pas surprenante.
Nous ne connaissons pas l'étendue des renseignements dont il dispose, mais cela reste conforme aux réalités de la sécurité.
Les autorités nigérianes ont eu du mal à mettre fin aux nombreuses attaques terroristes et aux enlèvements à travers le pays. La situation est particulièrement préoccupante dans le nord, où des djihadistes et des bandes armées enlèvent régulièrement des personnes contre rançon. En juillet, des hommes lourdement armés ont attaqué une prison d'Abuja et libéré plus de 800 détenus. Plus de la moitié d'entre eux ont été repris par la suite, mais des centaines sont toujours en cavale, dont 64 suspects de terrorisme très connus. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest a revendiqué cette attaque. Selon le sénateur Iro Egbu, la menace pour la sécurité s'est accrue à Abuja.
Même l'armée a admis qu'il existait des cellules dormantes du groupe État islamique et d'autres éléments de Boko Haram dans la capitale et dans d'autres États voisins, et que ces cellules peuvent être activées à tout moment. Et depuis, il n'y a aucune information disant que ces cellules dormantes ont été défaites et neutralisées.
Le Nigérian Kelvin Obumuke avait rendez-vous à l'ambassade américaine lundi pour discuter d'un problème de voyage et cette alerte soudaine a bouleversé ses plans.
J'étais sur le point d'embarquer sur mon vol lorsque j'ai reçu cet email m'annonçant l'annulation de mon rendez-vous. J'étais livide, compte tenu de l'urgence avec laquelle je devais venir à Abuja et du fait que j'ai dû acheter un billet à tarif majoré parce que je devais être ici aujourd'hui.
Le département des services d'État du Nigeria a répondu à la mise en garde de l'ambassade américaine dimanche en exhortant les citoyens à rester calmes et vigilants. Les autorités veulent rassurer les citoyens que les forces de sécurité sont mobilisées pour faire face à toute menace et encouragent le public à signaler tout acte suspect.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine. Comment faire de la question sécuritaire en Afrique une priorité mondiale? En ouvrant le 8e forum de Dakar sur la paix et la sécurité, le président sénégalais Macky Sall a déclaré que le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine, mais une menace globale, dénonçant ce qu'il appelle l'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Comment placer la lutte contre le terrorisme en Afrique au centre de l'agenda international dans un contexte de débat sur la souveraineté des États? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Ici aux États-Unis, l'auteur sénégalais Boubacar Boris Diop a reçu hier à Norman, dans l'Oklahoma, le 22e prix Neustadt International de littérature, l'un des plus grands prix de littérature aux États-Unis. Monsieur Diop est l'un des romanciers africains les plus réputés. Il est le 3e écrivain d'expression française à avoir été lauréat de ce prix et le 4e écrivain incluant les anglophones et les lusophones. Au téléphone avec Eric Manirakiza, l'auteur Boris Diop explique ce que ce prix représente pour lui.
Beaucoup. Comme je dis toujours, nous on écrit sans vraiment jamais penser à des prix littéraires. Et lorsqu'ils arrivent, ben, ils sont réellement les bienvenus. Et celui-ci, parce que c'est un prix international, parce que Jennifer Croft, la personne qui a proposé mon roman Mourambi, le livre des ossements, l'a fait après avoir lu mon roman en Wolof. Et pour moi, ça a une saveur particulière. Bon, quelque part, voilà, c'est la langue Wolof qui conduit à une telle reconnaissance. Qui est une reconnaissance finalement, au niveau international, parce que le Neustadt c'est ouvert à toutes les langues du monde. Hein. C'est ouvert aux Chinois, aux Japonais, aux Sénégalais, aux Camerounais, aux Français, à tout le monde. Voilà. Donc oui. Très content, comme chaque fois qu'on a un prix, mais particulièrement content, parce que tout est parti de Domingolo, mon premier roman en Wolof.
Ce prix est effectivement lié à votre roman sur le génocide des Tutsis au Rwanda, un événement qui a marqué un tournant dans votre approche littéraire, n'est-ce pas?
C'est certain. Hein. Je dis parfois qu'il y a ma façon d'écrire avant le Rwanda, avant que je n'aille là-bas en 1998, et ma façon d'écrire après. Voilà. Je considère moins la littérature comme une espèce de divertissement innocent, plus conscient que jamais, donc, après le Rwanda, de la lourde responsabilité de l'écrivain. J'ai envie d'ajouter africain, mais au fond, juste écrivain, ça suffit, de quelque nationalité qu'on soit. Et donc, oui, voilà, je pense que le contenu de mes livres, ça se concentre beaucoup sur certaines questions de société, sur les menaces qui pèsent sur les sociétés les plus fragiles.
L'auteur sénégalais Boubacar Boris Diop, lauréat du 22e prix Neustadt International de littérature. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée et à l'écoute de nos programmes.